Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 1er juin, ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Nous allons une nouvelle fois revenir sur le grand titre de l'actualité. Nous reviendrons sur les élections européennes dimanche dernier. Nous partirons aussi pour les États-Unis, le Japon, le Soudan, la RDC. Et cette fois, nous allons nous attarder au Venezuela avec notre invitée Paola Vasquez Lezama, anthropologue, sociologue, spécialiste de ce pays. Avant de partir pour le Venezuela, arrêtons-nous un instant d'Israël, où ces prochains mois, les électeurs vont devoir à nouveau choisir leurs députés. Le Parlement a voté pour sa propre dissolution, moins de 2 mois après avoir été élu, et les électeurs seront à nouveau appelés aux urnes le 17 septembre prochain, scénario inédit dans l'histoire du pays. À Jérusalem, mercredi, Guilhem Deltaï.
Une fois l'échec acté, la dissolution de la Knesset était aux yeux de Benjamin Netanyahou l'option la moins risquée. En convoquant de nouvelles élections, le Premier ministre retirait au président la possibilité de charger un autre député de former le gouvernement et il se dit confiant sur sa capacité à gagner ce nouveau scrutin. « Nous allons l'emporter », a-t-il déclaré la nuit dernière à l'issue des débats. Mais tout scrutin reste un pari et Benjamin Netanyahou entame cette campagne affaiblie par ce premier échec retentissant. Pour la seconde fois en moins de 6 mois, le chef du gouvernement va demander aux électeurs de lui confier la responsabilité de former un gouvernement alors qu'il vient d'échouer dans cette tâche. Benjamin Netanyahou s'efforce de faire porter le coup politique de cet échec à Avigdor Lieberman, son ancien ministre de la Défense, mais les électeurs pourraient aussi lui en tenir rigueur. D'autant que ces dernières semaines, le Premier ministre a semblé préoccupé par son propre sort. Il a mis au cœur de son programme de coalition des réformes judiciaires qui lui permettraient d'obtenir une immunité face aux enquêtes pour corruption. Selon un sondage publié en début de semaine, 2/3 des Israéliens y sont opposés. Cela inclut une partie de l'électorat de droite.
Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez retrouver sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio et sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Paola Vasquez Lezama.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro et d'être en notre compagnie pour commenter l'actualité de la semaine et en accentuant notre analyse sur le Venezuela. Vous êtes sociologue, anthropologue et auteur de Pays hors service, Venezuela de l'utopie au chaos, un livre publié aux éditions Buchet-Chastel. Un essai qui ne parle pas simplement de politique mais aussi de la société vénézuélienne, qui parle de vous aussi dans cette société puisque vous êtes vénézuélienne. Et je retiens une phrase parmi beaucoup d'autres dans votre essai, dans votre livre, Paola. Depuis la mort d'Hugo Chavez, plus rien n'a de sens dans ce pays.
Vous
parlez même d'un pays qui est livré à un scénario de science-fiction, quasiment.
Oui, c'est la coïncidence de la mort de Chavez avec cette crise qui n'arrête pas de s'approfondir et que d'une certaine manière, Chavez n'a pas assumé les conséquences ou n'a pas assumé la responsabilité politique parce qu'il est décédé juste au moment où elle commence.
2013.
En 2014, il y avait des choses possibles à faire pour l'éviter. D'une certaine manière, la responsabilité de Maduro là-dessus, il est énorme. Il y avait des possibilités de redresser l'économie. Mais aussi, avec la mort de Chavez, c'est l'effondrement de toute une sorte de machine idéologique qui servait à donner sens aux mesures, même si elles étaient complètement irrationnelles. Donc, c'est une sorte de réveil qui se transforme en un cauchemar. Et c'est surtout, mais bien sûr, il y a des choses beaucoup plus réelles, rationnelles qu'on peut étudier et analyser. C'est comment on a créé les conditions macroéconomiques et politiques pour arriver à une situation pareille au nom d'un projet idéologique de justice sociale qui s'est jamais concrétisé d'une manière durable.
Au nom de ce que l'on appelait le socialisme d'État, on va y revenir. Paola, je voudrais qu'on parte tout de suite au Venezuela à propos de chaos. Et écoutez un des reportages de ces derniers jours diffusés sur notre chaîne, un reportage réalisé à Caracas et signé Benjamin Delisle.
Dans l'une des rares stations-service encore ouvertes du centre de Caracas, Kevin s'apprête à atteindre la pompe. Après un peu plus d'une heure d'attente, il a l'impression que la pénurie d'essence s'empire chaque jour.
C'est la première fois que je fais la queue aussi longtemps. Jusqu'ici, les files d'attente n'étaient pas aussi longues pour prendre de l'essence.
C'est préoccupant, très préoccupant, parce que ça s'ajoute aux autres problèmes que nous avons.
Quelques voitures plus loin, Javier relativise. Selon lui, la capitale récupère toute l'essence du pays et c'est la province qui se partage les miettes.
J'arrive de Maracay et de Valencia. Là-bas, tu peux voir sur l'autoroute des files d'attente de 4 ou 5 kilomètres. Les gens attendent peut-être 8 heures pour faire le plein et même parfois plus.
Des pénuries qui suivent l'entrée en vigueur d'un embargo américain sur le brut vénézuélien fin avril. Or, le Venezuela utilisait majoritairement les États-Unis pour raffiner son pétrole. Mais pour Javier, les sanctions de Washington ne suffisent pas à expliquer la situation.
Les sanctions, c'est une petite partie du problème. La vérité, c'est qu'on a des personnes au pouvoir depuis 20 ans qui ont récupéré une industrie pétrolière prospère et qui l'ont complètement détruite.
Effectivement, la production pétrolière n'a pas attendu l'embargo pour sombrer, alors que le Venezuela produisait plus de 3 millions de barils par jour il y a 10 ans. Ce chiffre est passé sous la barre du million au début du printemps.
Ça y est, Paula, nous parlons directement du pétrole qui est au cœur de la crise et au cœur de votre livre. Vous écrivez « La place du pétrole dans la formation du Venezuela est-elle centrale ? Elle est en tout cas une partie constitutive de l'histoire et de l'identité de la société.
Oui. »
À ce point.
À ce point, parce qu'en tant que nation moderne, c'est le démarrage de l'industrie pétrolière, l'exploitation de l'industrie pétrolière au début du XXe siècle qui fait la configuration du pays actuel tel qu'on le connaît. Le Venezuela a quitté le XIXe siècle ruiné par des guerres civiles internes. Ce n'était pas le cas de la Colombie, par exemple. L'agriculture, c'était surtout les cafés et les cacao, mais il n'y avait pas de grandes richesses comme d'autres colonies sud-américaines de l'époque. Donc, c'était une nation plutôt pauvre et appauvrie. Et c'est le pétrole qui transforme complètement cette société tout au long du XXe siècle. Voilà, c'est une industrie qui est centenaire et qui marque complètement la modernisation du pays et les générations à suivre. Donc ça, c'est constitutif et ça a été traité comme s'il y a deux corps de la nation, il y a un corps au sous-sol et un autre qu'on voit dans la surface.
Et d'ailleurs, vous écrivez, Paula Vasquez, avec ironie, la clé est au sous-sol.
Oui, tout à fait.
La clé de la crise.
Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce qu'on fait de cette richesse-là, c'est surtout des choix politiques qui la décident. Comment est-ce qu'on va investir les revenus pétroliers? Il y a eu du succès, des manières plus heureuses de les faire. En tout cas, celle choisie par la révolution bolivarienne a été, d'une certaine manière, la pire des choses à faire avec.
Parce que vous insistez, Paola, dans ce livre, sur le fait que cette production du pétrole est une production d'État. Nationalisé depuis 1976, c'est ça ?
En effet,
c'est directement l'État qui est responsable de ce qui se passe en matière de production et en matière aussi de distribution des revenus de ce pétrole.
Tout à fait. L'entreprise nationale PDVSA, elle a atteint les niveaux de 100 autres majors du pétrole transnational mondial. C'était la seule compagnie nationale des pays pétroliers de l'OPEP qui a atteint les standards en termes d'innovation technologique et qualité de l'exploitation. Sécurité pour les employés, etc. Ce n'était pas le cas de l'Algérie, la Libye ou l'Irak. Et donc, c'est extrêmement particulier que PDVSA, qui ait atteint ces niveaux-là d'excellence dans l'industrie pétrolière, se trouve aujourd'hui dans cet état des ruines. C'est ça qui fait un contraste et qui fait quelque chose d'assez inexplicable parce que la dégradation a été brutale et très radicale. Et l'expliquer, ça, c'est tout un défi intellectuel. Et des recherches.
Ça veut dire que personne ne comprend pourquoi.
Mais disons qu'il y a des raisons, des changements, des partenariats extrêmement importants au niveau géopolitique. Parce que depuis les années 90, PDVSA avait fait ce qu'on appelle des joint ventures, c'est-à-dire
la société pétrolière
pétrolière avait fait des investissements de la part des majors transnationales pour exploiter les pétroles les plus lourds, difficiles à exploiter. Mais aussi, il y a tout un choix même de l'organisation de l'industrie elle-même. C'est-à-dire, on a négligé et on a dépensé sans investir l'état du patrimoine industriel, il est catastrophique. Aujourd'hui, on a des déversements de pétrole un peu partout dans les pays. Les puits sont abandonnés. Et comment expliquer les que les puits soient abandonnés dans un pays pétrolier, d'excellence pétrolière et d'exploitation sans guerre. Parce qu'on pourrait voir ça en Irak après un bombardement.
On l'a vu d'ailleurs, oui.
Et on l'a vu. Et là, le Venezuela se trouve dans des nappes de pétrole, dans une catastrophe écologique à cause d'une industrie qui a été abandonnée.
C'est vraiment ce que l'on appelle la malédiction du pétrole. Puisque toute l'économie reposait.
Voilà. Mais ce que j'essaie de montrer là aussi, c'est que c'est quelque chose qui est évitable et qui relève surtout des choix politiques. C'est-à-dire parce que la notion de malédiction relève des choses qu'on peut pas éviter, tandis que ça, l'état actuel des choses n'est pas tombé du ciel, en fait.
Sept jours dans le monde.
Et partons pour les États-Unis, Paula Vasquez, avant de reparler évidemment du Venezuela. Robert Mueller a parlé en effet pour la première fois et sans doute la dernière de l'enquête russe mercredi dans une allocution depuis le ministère de la Justice à Washington. Plus de deux mois après la remise du rapport consacré à ces investigations, le procureur spécial a livré sa propre lecture de son travail. Elle est différente, vraiment différente, de celle de son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire le ministre de la Justice, William Barr, à Washington, Anne Corpé.
Si nous avions eu la conviction que le président n'avait pas commis de crime, nous l'aurions dit, a déclaré le procureur spécial. Mais poursuivre un président en exercice est contraire à la Constitution, a-t-il expliqué, avant de lancer, ce n'était pas une option. Autrement dit, Robert Mueller n'exonère pas le président, mais n'avait pas la possibilité de le mettre en cause devant la justice. Ce que Donald Trump fait mine de ne pas comprendre. Rien de nouveau, il n'y a pas assez de preuves, et donc dans notre pays, cela signifie l'innocence, l'affaire est close, merci, a-t-il aussitôt écrit sur Twitter. Mais les démocrates ne l'entendent pas de cette oreille. Compte tenu du fait que le procureur spécial n'a pas été en mesure d'ouvrir des poursuites, c'est au Congrès de le faire, a déclaré le chef de la commission de la Chambre, avant d'ajouter au sujet d'une procédure de destitution. Toutes les options sont sur la table, le président a menti, personne n'est au-dessus des lois. Quatre prétendants à l'investiture du parti pour la présidentielle ont déjà réclamé de manière plus ou moins directe l'ouverture d'une telle procédure. Pour l'instant, Nancy Pelosi, qui dirige le camp démocrate à la Chambre, y reste opposée.
Repartons sans tarder au Venezuela, Paula Vasquez, pour revenir cette fois sur les négociations d'Oslo qui ont commencé il y a quelques temps, quelques jours, où sont présentes les deux parties, c'est déjà presque miraculeux. Mais mercredi, ces négociations n'ont pas abouti. Harry Milipold.
Les deux délégations se séparent donc sans avoir trouvé de compromis, mais il y a des chances qu'elles se retrouvent à nouveau autour d'une table, car Juan Guaido, tout en constatant l'échec de cette deuxième rencontre à Oslo, se dit disposé à poursuivre la médiation. C'est le terme qu'il choisit pour qualifier cette amorce de dialogue avec le président Nicolas Maduro, une initiative critiquée au sein de l'opposition. Rien n'a filtré sur le contenu des discussions, si ce n'est que les deux délégations se sont retrouvées pour la première fois face à face. Il y a deux semaines, la méfiance mutuelle régnait encore et les pourparlers s'étaient déroulés séparément. À l'issue de cette deuxième session, le gouvernement norvégien, qui a une nouvelle fois adopté le rôle du facilitateur dans la résolution d'un conflit, se veut optimiste. Les deux parties ont démontré leur volonté d'avancer dans la recherche d'une solution négociée et constitutionnel pour le pays, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Avant d'ajouter que le processus peut aboutir à des résultats à condition que l'opposition et le gouvernement restent discrets dans leurs commentaires sur les discussions.
Nous allons en reparler dans un instant, Paola, mais que faut-il aussi retenir cette semaine dans l'actualité internationale, Nina Gloui, ce qui se passe d'abord en Syrie?
Oui, de nouvelles frappes du régime syrien ont fait au moins 7 morts parmi les civils, dont 4 enfants, jeudi, dans la province d'Idlib, tenue par des groupes djihadistes. Le bilan des victimes civiles ne cesse d'augmenter dans cette zone du nord-ouest de la Syrie. La Turquie demande un cessez-le-feu à Idlib, une requête rejetée par la Russie qui souhaite, elle, que les combats se poursuivent sur l'enclave djihadiste.
Passons par le Brésil.
Une vague de massacres entre détenus au Brésil dimanche et lundi. 55 prisonniers ont été tués dans des affrontements entre gangs rivaux dans 4 prisons de l'état d'Amazonas. Presque tous ont été étranglés ou poignardés. Le Brésil compte la 3e population carcérale au monde. Le taux de surpopulation des prisons frôle les 200% et les homicides entre détenus y sont très fréquents.
Enfin, il faut souligner le non de la Malaisie au plastique.
Elle va renvoyer des centaines de tonnes de déchets à leurs expéditeurs, à savoir le Canada, les États-Unis ou encore l'Australie. Depuis que la Chine a fermé ses portes aux déchets occidentaux, la Malaisie a pris le relais et s'est à son tour spécialisée dans le recyclage du plastique. Mais elle se retrouve débordée. Elle en a importé l'an dernier 870 000 tonnes, ce qui a entraîné une multiplication d'usines de recyclage sauvage très polluantes.
Une semaine d'actualité.
Et nous continuons notre revue de l'actualité de la semaine en compagnie de Paula Vasquez-Lezama, qui vient d'écrire « Pays hors service, Venezuela, de l'utopie au chaos », un livre publié aux éditions Buchet-Chastel. Faut-il prendre au sérieux ces négociations d'Oslo ?
Je pense que oui, dans la mesure où il faut se mettre d'accord sur les conditions dans lesquelles seront réalisées les élections qui vont permettre de sortir le Venezuela de cette crise.
Et donc de cette partition, de cette division, voilà. Et donc de pouvoir en quelque sorte.
Disons que c'est surtout une médiation. Je pense que Juan Guaido, sans être partisan, Juan Guaido, il a raison d'utiliser ces mots-là. Pourquoi ? Parce que on est en train d'étudier les régimes au pouvoir. Le gouvernement de Nicolas Maduro, c'est un gouvernement qui a énormément de comptes à rendre, pas seulement avec la justice internationale concernant les détournements des fonds de PDVSA et d'autres énormes scandales financiers qui l'affectent, mais aussi avec ses créanciers. Donc, il y a les questions de livraison de pétrole, par exemple, qui ont été la clé géopolitique de la politique de Chavez. Les livraisons de pétrole à Cuba.
On reparle du pétrole.
Du pétrole. Il faut rembourser aussi la dette avec la Chine et c'est les remboursements de la dette avec la Chine, c'est des grands parce que la Chine a financé la révolution bolivarienne, ces fonds en pétrole. Et on ne peut pas livrer 5 000 barils par jour à la Chine avec une industrie dans cet état-là. Et donc, c'est les créanciers qui mettent aussi la pression sur Maduro pour qu'on négocie, pour essayer de sortir le Venezuela de la crise pareille. Et disons qu'il y a un consensus sur lequel il faut sortir de ces régimes pour qu'il y ait une amélioration économique. C'est pour ça qu'on est en train de négocier les conditions de sortie. Ça va être extrêmement difficile parce qu'il y a un problème de violence énorme dans ces pays, dans la mesure où le gouvernement de Maduro ne contrôle pas ce qui se passe à l'intérieur des frontières vénézuéliennes. Il y a énormément de groupes irréguliers qui opèrent dans la frontière avec la Colombie, les collectivos, etc. Donc il faudra, comme des conditions aussi, qui va exercer les pouvoirs et quel sera le rôle des militaires dans une éventuelle transition et dans quelles conditions on pourra faire des élections à nouveau pour essayer de récupérer des institutions démocratiques qui puissent faire démarrer les pays.
Est-ce qu'il y a une véritable divergence entre ce que la pensée de Chavez et celle de Maduro? Est-ce qu'ils sont exactement tous les deux sur la même ligne? Est-ce que Nicolas Maduro est vraiment le fils spirituel, entre guillemets, de Chavez?
Mais la question, c'est qu'il n'y a plus de pensée, je pense. Il n'y a plus de pensée. Là, la question idéologique, c'est la dissolution de beaucoup de choses qui étaient comme une sorte d'imposture idéologique, parce que ça a été surtout une manière de cacher une énorme machine qui a utilisé les institutions de l'État pour détourner la rente pétrolière. C'est une sorte de privatisation corporatiste mafieuse qui règne dans l'État vénézuélien. Donc, de l'idéologie de la révolution bolivarienne, ne reste pas grand-chose. Et Maduro, c'est plutôt quelqu'un qui, on est d'accord, c'est quelqu'un qui assume toute une série de fonctions, mais c'est pas chez lui qui est les pouvoirs, ou c'est pas dans son poste de président qui est les pouvoirs, mais c'est plutôt une coalition des groupes d'intérêts extrêmement puissants qui opèrent à travers lui.
Oui. Et est-ce que il y a eu une tentative de coup d'État en 2002? Et est-ce que l'armée est divisée elle aussi? Parce que ça, c'est un des mystères, une des questions que l'on se pose depuis des mois. Est-ce que l'armée peut pencher d'un côté ou de l'autre?
Je pense plus à qu'une division des forces armées aura lieu. Je pense que si ça allait avoir lieu, ce serait déjà passé. Le moment de cette division-là, il est passé. Chavez, il fédérait les forces armées en faisant énormément de compromis. Là, c'est les mois de juin et juillet qui commencent. C'est le mois des promotions des militaires. Ce sont des mois extrêmement tendus. Et là, on est en train justement de négocier les promotions, les primes, etc. Et ça va pas se diviser justement à ce moment-là, ils essayent plutôt de sortir, de trouver une porte de sortie entre guillemets honorable avec les moindres coûts politiques pour eux. Mais non, ils sont pas divisés. En fait, en tout cas, ils le disent pas. Il faut aussi penser qu'il y a énormément de secrets dans cette institution militaire. C'est par définition les secrets défense. C'est par définition dans l'institution militaire. Mais en tout cas, ils se déclarent tous jusque-là fidèles à Nicolas Maduro.
Alors, il y a la dimension internationale aussi de cette crise vénézuélienne. La Russie soutient Maduro, les États-Unis sont du côté de Guaido. Et il y a un pays que vous avez nommé il y a un instant dont on ne parle jamais, c'est la Chine aussi. Donc il y a vraiment trois grandes puissances, notamment la Chine et les États-Unis, qui sont derrière en fait cette crise, qui sont opposées, qui s'affrontent via cette crise politique.
En effet, c'est extrêmement étonnant pour nous Vénézuéliens, voir qu'on est devenu un enjeu de la géopolitique mondiale de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est à partir de qu'il y a un dialogue Russie-États-Unis par les biais de la situation vénézuélienne, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant et atypique dans les continents. Il n'y a pas d'autres pays en Amérique du Sud où telle chose se passe. Par rapport à la Chine, l'une des premières choses qu'a dit Guaido en janvier et en février, c'était de rassurer les investisseurs chinois en disant, si jamais il y a une transition, vos intérêts seront sauvegardés et les accords de coopération seront respectés, etc. C'est parce que c'est devenu les créanciers les plus importants du Venezuela. Et la publication hier des chiffres de la Banque centrale vénézuélienne, c'est quelque chose d'extrêmement important.
On va en reparler tout à l'heure parce que ces chiffres ont surpris et venant de la Banque centrale d'autant plus. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la Chine est très intéressée d'évidence par le pétrole du Venezuela.
C'est le principal investisseur en ce moment. Il y a surtout pour les huiles lourdes et extra lourdes de l'Orénoque. Sauf que tous les grands programmes de développement n'ont pas été réalisés. C'est-à-dire, on imaginait quand Chavez présentait ça avec une grande éloquence, comme faisait-il avec dans des émissions de télévision, avec des cartes et des maquettes, des villes.
Ces grandes interventions qui duraient des heures entières.
Voilà. Oui. Et des villes qui allaient être construites, des métropoles dans les plaines de l'Orénoque, amazonienne, enfin c'était des choses extrêmement ambitieuses au niveau des développements et d'investissement. Si aujourd'hui vous allez pas trouver ce que Chavez avait annoncé qu'elle était être fait avec les fonds chinois. Les fonds chinois fonctionnaient comme un budget parallèle de l'État vénézuélien. Il y avait le budget national géré les comptes de la Banque centrale et à côté il y avait les prêts milliardaires de la Chine qui s'appelaient comme ça le fondo chino. Et qui était une source de dépenses directes et qu'aujourd'hui il faudra rembourser avec un état des choses qui n'est, les Chinois sont pas satisfaits de ce qu'on a fait avec les investissements sur place.
Jours en France. Voilà Pascal, revenons sur les grands titres de l'actualité en France, donc maintenant, avant de repartir en Amérique latine, avec le résultat des élections européennes, la liste Rassemblement National est arrivée en tête, suivie de celle de La République En Marche, vous le savez, à noter une dégringolade pour la liste de la droite et pour celle de la France Insoumise aussi, ainsi qu'une vraie percée des Verts. Alors justement, à propos des Verts, reportage chez eux, en quelque sorte, dimanche soir, signé Marine de la Moissonnière.
Même les plus optimistes ne s'attendaient pas à un tel score.
On pensait sauver les meubles et seulement faire un score honorable pour la gauche, mais là, ce score-là est vraiment inespéré. En fait, on rejoint la vague verte européenne, c'est formidable.
Une vague verte qui fait des écolos une force centrale au Parlement européen et d'Europe Écologie Les Verts, le troisième parti de France. Pour Lucas Bronchot, militant de 18 ans, EELV a surtout remporté une victoire idéologique.
EELV qui est depuis toujours le parti écologique authentique reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite. L'écologie portée par EELV est beaucoup plus crédible que celle portée par la France Insoumise, Génération ou le PS. Et le scrutin de ce soir le prouve.
Premier parti d'une gauche bien mal en point, EELV va maintenant devoir rassembler son camp s'il veut poursuivre sur sa dynamique. Yannick Jadot est prêt à conquérir le pouvoir.
Évidemment, nous saurons prendre nos responsabilités dans le paysage politique français. Municipal, régional, élection nationale de 2022. Très clairement, ça sera autour de l'écologie. Je crois que les Français ont tranché.
Fort de leur victoire, les écolos se veulent désormais une alternative à Marine Le Pen.
Alors, quels sont les résultats à l'échelle des 28 pays de l'Union ? Cette fois, il s'agissait d'élections européennes. Dès dimanche soir à Bruxelles, Pierre Benazé nous a donné les grandes tendances du scrutin.
On voit les trois familles politiques classées comme populistes, d'extrême droite ou eurosceptiques, progresser, mais au total, ils ne gagneraient à eux trois qu'une vingtaine de députés supplémentaires sur les 751 élus ce dimanche. Le groupe Europe des Nations et des Libertés, auquel appartient le Rassemblement National de Marine Le Pen, gagne des sièges grâce au score de la Ligue en Italie. Le groupe Europe des Libertés et de la Démocratie Directe gagne aussi du terrain grâce aux députés du parti du Brexit de Nigel Farage. Mais le groupe des conservateurs et réformistes voit ses rangs décimés à cause du très net recul des conservateurs britanniques. Parmi les partis traditionnels, en revanche, c'est la débandade pour les conservateurs et les socialistes qui chacun perdent une petite quarantaine de sièges. A l'inverse, deux partis tirent très bien leur épingle du jeu, à savoir les Verts qui gagnent une vingtaine de sièges et surtout les libéraux qui en gagnent une trentaine, grâce en particulier à l'arrivée des députés de La République En Marche. La recomposition du Parlement européen a une conséquence principale, à savoir que les conservateurs et les socialistes perdent pour la première fois la majorité absolue qu'ils avaient à eux deux depuis 1979. Il va donc y avoir une recherche de coalition qui va mettre au centre du jeu les Verts et les libéraux.
Unir Fiat, Chrysler et Renault pour donner naissance à un mastodonte de l'industrie automobile mondiale qui pèserait plus de 30 milliards d'euros en bourse. L'offre présentée lundi par le constructeur italo-américain, saluée par les marchés et l'État français aussi, pourrait remettre en question le rapport de force entre le constructeur français et son allié japonais Nissan. À Tokyo mercredi, Frédéric Charles.
Le patron de Renault, Jean-Dominique Senard, a essayé d'expliquer à Tokyo la place qui reviendrait à Nissan dans ce projet de fusion entre Renault et Fiat Chrysler. Il y a eu des discussions franches et transparentes, se contente de dire Renault, dans un bref communiqué à l'issue de sa rencontre avec la direction de Nissan. Une fusion Renault-Fiat Chrysler poserait des problèmes sur les marchés où Nissan et Fiat Chrysler sont tous deux présents, notamment dans les SUV et les utilitaires légers aux États-Unis. Le fait que Renault paraisse prêt à créer de telles difficultés à Nissan aux États-Unis, son principal marché, montre que Renault n'a pas forcément à lier son destin à celui de Nissan, estime Chris Richter, un analyste de la société CLSC à Tokyo. Un autre analyste à Tokyo estime que Renault pourrait tirer davantage de synergie avec Fiat Chrysler qu'avec Nissan, et qu'il pourrait être inévitable à terme que Renault finisse par quitter Nissan. La participation de Renault dans Nissan vaut 11 milliards d'euros. Renault pourrait investir tout cet argent dans les technologies qui bouleversent l'industrie automobile.
Sachez aussi que 7 Français ont été condamnés à mort en 4 jours à Bagdad pour avoir rejoint le groupe djihadiste État islamique et que le principal suspect de l'attentat de Lyon a reconnu avoir conçu et déposé le colis piégé dont l'explosion il y a 8 jours vendredi a fait 13 blessés légers. Suite d'une semaine d'actualité, nous continuons à parler du Venezuela avec vous, Paula Vasquez, à l'appui de votre livre Pays hors service, Venezuela de l'utopie au chaos. Si nous parlions un peu de la vie quotidienne, c'est peut-être le plus important, des Vénézuéliens aujourd'hui. D'abord qu'ils sont moins nombreux qu'il y a quelques années. La population a diminué.
Il y a une estimation de 10% de la population vénézuélienne qui s'est répartie les 4 dernières années, surtout, vers la Colombie. C'est des conditions extrêmement difficiles. Il y a l'hyperinflation qui fait des conditions dans les ménages comme si c'était une économie de guerre. C'est-à-dire, c'est munir des biens, c'est extrêmement difficile parce que les modes de paiement sont aussi très difficiles avec les plafonds des cartes, la pénurie d'espèces, d'argent liquide, les problèmes pour régler n'importe quel achat. plus les prix. Et donc, même si aujourd'hui il y a un peu moins de pénurie, les prix permettent pas à la population d'acheter les biens. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la crise sanitaire. Qu'à mon avis, en ce moment, c'est la chose la plus dramatique avec la pénurie des médicaments. C'est-à-dire, il y a toujours dans la santé plusieurs niveaux. Disons, un niveau santé publique, ça va très mal, mais pour les malades des maladies chroniques, comme des leucémies, même l'hypertension et la diabète, c'est presque une mort assurée si la personne n'a pas beaucoup, beaucoup de ressources. Et des hôpitaux publics qui fonctionnaient plus ou moins jusqu'à il y a 4 ans, aujourd'hui se trouvent dans la pénurie et les cas peut-être les plus dramatiques, c'est l'hôpital pédiatrique de Caracas où les enfants meurent faute de les choses les plus basiques. Et donc, tous les hôpitaux publics vénézuéliens sont dans un état vraiment calamiteux.
Et y a-t-il toujours des médecins cubains au Venezuela?
Oui, mais ils peuvent pas assurer ce type de soins, justement, parce que c'est une crise structurelle de l'infrastructure elle-même. Il y a les problèmes de l'électricité, de l'eau courante, c'est des institutions sanitaires qui n'ont pas d'eau courante.
On se souvient qu'il y a eu de grosses pannes d'électricité il y a quelques semaines, qui ont duré plusieurs jours.
Voilà. Et plus des médicaments, un traitement pour une maladie chronique, on a besoin de tout un protocole de médicaments et c'est pas la présence d'un professionnel qui n'est pas spécialisé qui va résoudre ce type de situation dramatique. Et il y a des accords de coopération avec Cuba qui continuent, mais ça, c'est extrêmement difficile à évaluer quel est vraiment leur impact et la manière de travailler, parce qu'on ne sait pas finalement grand-chose. Ce qu'on voit, c'est une crise sanitaire qui se traduit maintenant dans des chiffres qui commencent à sortir. Finalement, on a cette question de l'augmentation de la mortalité infantile qui est extrêmement importante.
Alors, vous racontez aussi des épisodes de votre vie. Vous parlez de votre famille qui vit aujourd'hui au Venezuela. Vous dites qu'ils ont tous maigri, que leur situation est vraiment délicate. Et expliquez en quelques mots, s'il vous plaît, Paola, pourquoi un matin, en vous réveillant, vous avez vu des boulangers charger des sacs de farine chez vous, enfin chez vos parents.
C'était à l'époque de ce qu'on appelait la guerre contre les boulangers, parce qu'il y a
C'était en 2017, non, que Maduro avait dit les boulangers devaient être...
Les blés s'achètent avec des devises, et il y avait un problème d'attribution des devises, des dollars, pour acheter la farine de blé. Et donc, ça fait que, comme on a régulé les prix du pain, c'était à perte pour les commerçants et pour les fabricants et pour les boulangers de fabriquer du pain. Parce qu'il fallait les vendre à un prix beaucoup plus bas de ce qu'ils devraient acheter cette farine qui pouvait pas s'octroyer qu'avec des devises attribuées d'une manière complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'ils ont créé un système, ils ont fait un système qui provoque la pénurie. Par définition, c'est un peu des types de phénomènes comme l'Union soviétique aussi. On a connu ce type de distorsion de l'économie extrêmement forte. Et donc, ces boulangers-là louaient un appartement à côté de mes parents, c'est un annexe. Et donc, parce que sinon, la garde nationale bolivarienne avait des politiques de répression pour les stockages. Et si on permet pas à un producteur de stocker les biens avec lesquels il va produire la marchandise, ça devient extrêmement compliqué. Et donc, c'était tout un système complètement perverti qui favorise la méfiance, la revente à surprix, les stockages frauduleux, la répression. Et donc, on se trouve au milieu des situations très surréaliste au Venezuela. Et même si on n'est pas, je ne sais pas, commerçante, mais ça nous touche d'une certaine manière.
Alors, vous parliez, Paola, d'une partie de la population, 10% qui a quitté le pays en 4 années, hein, donc c'est depuis peu. La Colombie accueille un peu plus d'1 million, 1 300 000 Vénézuéliens, et on a appris jeudi que l'aide humanitaire américaine qui était destinée au Venezuela, qui attend là en Colombie, sera finalement distribuée aux réfugiés vénézuéliens qui sont en Colombie.
Tout à fait.
Donc, les habitants du Venezuela, c'est raté.
Mais en même temps, la Croix-Rouge avait déjà réussi à faire l'entrée de plusieurs tonnes d'aide humanitaire. Et par rapport à la question de l'aide humanitaire, elle est complexe. Je pense qu'il faut faire des choses extrêmement ciblées à partir des ONG. Le problème, c'est que les gouvernements de Maduro étaient dans les dénis de la crise. Il niait la situation d'urgence humanitaire de Venezuela. Donc, si le gouvernement est dans cette situation de négation, pour les humanitaires internationaux, c'est extrêmement difficile et c'est pour ça que ça devient un bras de fer politique, parce que le fait que l'aide rentre, ça veut dire que Maduro reconnaît la situation. Et de toute façon, il faut la cibler. Il y a des gens compétents pour le faire à l'intérieur du pays. Il y a les ONG qui parfois font leur travail sans être sous les feux des médias, parce que ça peut leur valoir d'être expulsés par le gouvernement de Maduro. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que c'est tellement énorme la crise sanitaire qu'il faudra plutôt investir dans la reconstruction des institutions, des hôpitaux et de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prolonger... c'est pas avec l'aide humanitaire que les Vénézuéliens vont s'en sortir face à des énormes besoins de santé.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Vous pouvez aussi nous écrire sur la page Une semaine d'actu de Facebook. Hein. Bonjour aujourd'hui à Prosper, qui est étudiant en droit à Lomé, à David, à Kinshasa. Bonjour à Kevin, à Lubumbashi, à Ulrich et Michael, à Yaoundé. Un salut à Harry Joël, Tanteli, à Tananarive, à Madagascar, et à Kitoko, qui est originaire de Bukavu, mais qui vit à Nairobi.
Une semaine d'actualité.
Nous allons rejoindre Caracas dans quelques minutes avec vous, Paula Vasquez, mais nous allons d'abord parler un peu de l'Afrique. Et notre voyage africain va commencer en République démocratique du Congo avec l'arrivée au pays jeudi soir du corps d'Étienne Tshisekedi, figure, on le sait, de l'opposition, décédé le 1er février 2017, il y a donc un peu plus de 2 ans. Il était 19h22, heure locale pour être précis, une date dans l'histoire du pays et la liesse de la population. Reportage à Kinshasa de Florence Maurice.
Silence et recueillement. Lorsque l'avion d'Étienne Tshisekedi se pose enfin sur le tarmac, quelques proches sont au pied de l'appareil. Félix Tshisekedi, le fils désormais président, observe, visage grave aux côtés de nombreux officiels. Il serre sa mère longuement dans ses bras, puis pose ses mains sur le cercueil. L'émotion se lit dans les regards. Patricia Kabena est l'une des filles de l'opposant.
Notre père, élu en 2011, bien qu'il n'a pas exercé son pouvoir, il reste notre président élu.
Un mélange de tristesse et de soulagement de voir enfin l'opposant historique de retour sur sa terre. Christophe Ngoy, figure de la société civile congolaise.
Sa présence va raviver la flamme qu'il a laissée et nous sommes là pour l'entretenir.
Nombreux dans l'assistance expriment leur reconnaissance vis-à-vis du combat mené par l'opposant pour qu'émerge la démocratie dans le pays. Parmi eux, l'ex-prisonnier politique Frank Diongo.
C'est une perte immense pour la RDC. Il nous enseignait à dominer la peur, à démystifier les dictateurs, à combattre pour un état de démocratie. Et des droits.
Le cercueil est placé dans un corbillard vitré et aux couleurs du drapeau congolais. Lorsque le cortège funèbre quitte l'aéroport, une foule nombreuse s'élance dans sa suite en courant.
C'est ici notre héros, leader maximum de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux d'avoir créé notre père de la nation.
On est ensemble, Titi.
Partons maintenant pour le Soudan qui a connu 48 heures de grève générale. Elle s'est achevée mercredi à Khartoum. Ce jour-là, Sébastien Demette.
Le secteur bancaire était à la pointe de la grève avec des centaines d'agences fermées pendant 2 jours. Pour Souhaïl Arafat Ahmed, chef marketing à la Farmers Commercial Bank, les regards sont désormais tournés vers les militaires.
La balle est dans leur camp, ils doivent reprendre les négociations, abaisser leurs exigences et réduire leur présence dans la rue. Ils n'ont aucun intérêt à réprimer, sinon on ira au clash avec un bain de sang à la clé.
Les négociations portent sur le Conseil souverain, l'organe qui pilotera la transition. Pendant la grève, les militaires n'ont pas montré d'ouverture, mais Tariq Ahmed Ouida Abdallah, diplômé en droit de 29 ans, demande aux civils de ne rien céder.
Je ne fais pas confiance aux militaires, ils se comportent comme l'ancien régime. Je n'accepterai pas leur présence dans la transition, je compte sur nos négociateurs civils, mais nous sommes attentifs et s'ils dévient de la route, eh bien on les remplacera.
Et si finalement les militaires refusent toute concession, Mohamed Ismaël, ingénieur au chômage, a déjà en tête la prochaine étape.
Ce sera la désobéissance civile avec un blocage total du pays. Aucun import-export, aucun avion, plus rien. Les rues bloquées et tout le monde assis par terre à attendre une meilleure réalité. Je pense qu'on peut faire ça, les doigts dans le nez.
Les négociations sont suspendues mais pas rompues. Plusieurs options sont sur la table. Mais après 30 ans à la tête du Soudan, les militaires ont bien du mal à faire le deuil de leur pouvoir.
Et des milliers de Soudanais ont manifesté jeudi soir devant le siège de l'armée à Khartoum. La situation au Soudan est à suivre évidemment dans nos rendez-vous d'information. Direction maintenant le Nigeria, Paula Vasquez, vous écoutez tout ça avec une grande attention, je vous remercie. À l'occasion de la prestation de serment du président Muhammadu Buhari mercredi, le nouvel élu entame ainsi un deuxième mandat. Sa priorité, dit-il, c'est la lutte contre la corruption. Vaste programme, correspondance à Lagos de Moïse Gomis.
C'est presque sans émotion apparente que le président Muhammadu Buhari a prêté serment il y a quelques heures. Pourtant, Prince Uzoma, membre de l'APC de l'État, Dimo, ne regrette pas de s'être déplacé avec ses enfants.
Voir le président inauguré pour la deuxième fois, avec cette pluie qui tombe, c'est une bénédiction. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui soit un nouveau départ pour notre pays.
Le chef d'État nigérian avait annoncé une cérémonie sobre. Elle le fut, d'ailleurs sans couac protocolaire. Le président sortant du Sénat, Bukola Saraki, a bien tenu son rang de troisième personnage de l'État, malgré les récentes critiques de Muhammadu Buhari à son encontre. Et pour la parlementaire Marjorie Okadibo, la démocratie nigériane est sur le bon chemin.
C'est une transition d'une époque présidentielle à l'autre et c'est un moment important pour l'histoire de notre pays, le Nigeria.
Pourtant, Eagle Square, le lieu de l'investiture, était loin d'être plein et c'est au moment où la cérémonie s'achevait que les anonymes sans invitation ont pu passer les barrages filtrants de police pour s'approcher en vain.
D'autres faits à retenir en Afrique cette semaine avec vous, Ninoc Louis. Nous parlons d'abord du Burkina Faso.
Quatre fidèles ont été tués dimanche dernier pendant une messe dans une nouvelle attaque contre une église catholique à Toulfé, au nord du pays. Une vingtaine de chrétiens et plusieurs imams ont été victimes de groupes djihadistes dans cette zone ces derniers mois. Selon la Croix-Rouge, ce sont plus de 17 000 personnes qui ont fui le nord du pays depuis le début de l'année.
On votait à Madagascar cette semaine.
Oui, dans tout le pays, pour élire de nouveaux députés. Les résultats ne seront connus que le 15 juin prochain, mais le président malgache estime déjà que son parti est bien placé pour remporter ses législatives. L'opposition malgache a de son côté dénoncé mercredi des irrégularités dans le scrutin, qui a été marqué par une faible participation.
Quand l'Afrique du Sud s'intéresse à l'environnement ?
Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud va taxer le carbone produit par ses entreprises à partir du 1er juin prochain. Les industriels devront s'acquitter de 120 randes, soit 7 euros par tonne de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère. Une mesure encourageante selon les ONG qui regrettent cependant le faible montant de cette taxe. Rappelons toutefois que l'Afrique du Sud est le 14e plus gros pollueur de la planète.
Une semaine d'actualité.
Et Paula Vasquez, nous repartons au Venezuela. Étrange. Mercredi, la Banque centrale du pays a publié des statistiques étranges qui ne plaident pas en faveur du gouvernement. C'est le moins que l'on puisse dire. David Bachet.
Sur quoi reposent ces chiffres et que cherchent les autorités de Caracas en les publiant maintenant? Ce sont les deux questions que l'on peut se poser à la lecture des estimations de la Banque centrale du Venezuela, qui n'avait plus rien sorti depuis 3 ans. Selon ces chiffres, l'inflation aurait atteint plus de 130 000% en 2018. C'est énorme, mais le Fonds monétaire international l'estime lui à plus d'1 300 000% en 2018 et même 10 millions de % en 2019. Concrètement, un kilo de farine coûte à peu près la moitié du salaire minimum. Caracas reconnaît aussi que la croissance de son économie s'est réduite de moitié entre 2013 et 2018 et que sa production de pétrole, socle unique de son économie, a été divisée par 3 en 10 ans. En cause, selon de nombreux économistes, le manque d'investissement dans les infrastructures pétrolières nationales et l'absence de diversification de l'économie. Le président en exercice, Nicolas Maduro, pointe lui la responsabilité des États-Unis, des sanctions économiques qu'ils imposent au Venezuela et de leur soutien à l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido.
Alors, des chiffres que le FMI s'est dit hier vendredi incapable d'analyser, même le FMI semble avoir été étonné par ce rapport.
Oui, c'est une sorte, ça commence à mon avis à faire comme une remise à plat et de mettre des choses et de reconnaître la gravité de la situation. Parce que pour pouvoir attaquer une crise, il faut la reconnaître tout d'abord. La question, c'est comment? Parce qu'elle va commencer maintenant un processus d'attribution des responsabilités. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là? Mais en effet, par rapport à la chute du PIB, montre bien la dégradation de l'économie vénézuélienne et laisse imaginer les conditions surtout des entreprises et tout l'appareil productif qui se trouve anéanti avec des entrepreneurs qui peuvent pas payer leurs salariés, avec des salariés qui se trouvent sans sécurité sociale, avec une perte du niveau de vie. Les Vénézuéliens vivent un déclassement social. C'est l'appauvrissement total de la population. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir financer des aides sociales très fortes pendant de nombreuses années. En fait.
Alors visiblement, Paula Vasquez, le socialisme du 21e siècle prôné par Hugo Chavez n'a pas marché, c'est moins qu'on puisse dire.
Oui, c'est des reportages récents dans la presse française sur la question agricole, c'est intéressant parce que c'est voir les résultats. Maintenant, on commence à voir les résultats de cette politique concernant l'agriculture, par exemple, comment on a fait des politiques, pas seulement des nationalisations, des tarifisations, mais des contrôles des prix complètement arbitraires qui ont favorisé des choses en détriment d'autres, sans aucune logique ni concertation entre salariés, syndicats, entrepreneurs. Ça a déstabilisé complètement l'infrastructure existante. Et si on rajoute la situation de la crise énergétique, par exemple, donc en plus, ils se trouvent sans électricité, en plus, ils se trouvent sans essence pour faire rouler les camions pour arriver les produits. Enfin, c'est toute la chaîne de distribution. C'est pour ça que c'est très dystopique. Ce n'est pas une crise ponctuelle de laquelle on va s'en sortir, mais c'est tout un système qui est en train de s'effondrer avec des coûts énormes humains, en fait.
Alors, humain, c'est le mot-clé, effectivement. Là, c'est l'économie et ses conséquences sur la population. Mais sur le plan politique, ça sera ma dernière question, comment va-t-on sortir de cette division du pays en deux? On imagine mal Juan Guaido quitter le pouvoir ou la moitié du pays sur le plan politique, en tout cas son mandat de président de l'Assemblée nationale, et encore moins Nicolas Maduro.
Je pense qu'il y a, la polarisation moitié-moitié, elle n'est plus d'actualité dans la mesure où même le chavisme reconnaît. Les milieux populaires chavistes, disons, ou qu'ils étaient auparavant, sont en train de souffrir les mêmes conséquences et savent bien que c'est qu'en sortant de ces régimes qu'on va pouvoir trouver une solution. Et je pense que les débats, là, plus qu'idéologiques, c'est vraiment démocratie-dictature. Et comment on va faire pour réessayer de restaurer des institutions démocratiques.
Mais pourtant, il y a toujours des chavistes, des partisans du régime.
Oui, mais il faut pas oublier aussi que, à mon avis, Maduro a hypothéqué ou voire tué l'avenir du chavisme en tant que mouvement politique, en tant que tel maintenant. C'est-à-dire, c'est pas un leader qui va être suivi. Maduro, on veut sa tête aussi du côté des milieux qu'on soutenu. Tout le monde souffre. Enfin, c'est pas là, il n'y a pas de polarisation dans la souffrance de la crise.
Merci Paula Vasquez. Les amis, on va continuer à suivre avec attention ce qui se passe au Venezuela sur notre chaîne, dans nos rendez-vous d'information et dans ce magazine singulièrement. Vous avez écrit « Pays hors service, Venezuela de l'utopie au chaos », ce livre publié aux éditions Buchet-Chastel. Merci.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée cette semaine précisément par Steven Hesley. Un grand merci à Ninoc Louis. La semaine prochaine, c'est Raphaël Constant qui vous présentera l'émission. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons du grand écrivain français Romain Gary avec notre invité Denis Labouret, qui est maître de conférences en littérature française, spécialiste de l'auteur de La promesse de l'aube ou Des racines du ciel, ce magnifique roman sur l'Afrique, sur l'écologie, sur la défense des éléphants aussi. Demain, dimanche, à ne pas manquer, 17h10. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.